Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, restitution du grand débat national, Bernard Perru, député du Rhône, analyse les résultats sur sa circonscription à notre micro. Puis élections européennes du 26 mai prochain, le point avec le conférencier historien François Boursier. Il intervenait dans le cadre du Fait du Mois à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Et en conclusion, journée mondiale de l'autisme du 2 avril dernier, le témoignage d'une maman, Madeleine Favreau, mère d'un jeune autiste de 22 ans, Paul. Calade, le journal. Dieu, quelle tristesse! De la reine Margot à la Libération Notre-Dame ou l'église de la Nation, Notre-Dame, devenue grâce à Victor Hugo un symbole populaire au-delà de sa dimension religieuse. Nous confie Laurent Geoffrin pour Libération. La cathédrale parisienne aura connu entre grandeur et décadence tous les soubresauts de l'histoire de la capitale depuis le Moyen-Âge. Paris brûle-t-il ? Métaphoriquement, oui. Cette charpente en flammes soutenait une toiture hiératique et une flèche altière, mais aussi une bonne part de l'identité française, où se bousculent les souvenirs d'école et de légendes, ceux de Charles VII et de Jeanne d'Arc, Henri IV et de Bossuet, de la Révolution et des deux Bonaparte, de la Libération, de Claudel, du Maréchal et du Général, et surtout, dans la culture populaire, de Quasimodo, de Frollo et d'Esmeralda, les héros du roman de Hugo, monument de papier qui a décuplé la gloire du monument de pierre. Victor Hugo écrit les sombres émotions de la foi, mais surtout l'exubérance populaire qui animait le parvis, et même la nef où se pressaient les artisans, les tire-laines, les portefeuilles, les prostituées, où dansait la Rome Esmeralda, où souffrait Quasimodo, qui habitait dans les hauteurs obscures de la charpente qui vient de brûler. Avant lui, Eugène Sue avait fait commencer dans l'île de la Cité à l'époque le quartier le plus pauvre de la capitale. Ces mystères de Paris, premier grand reportage romancé sur la misère des oubliés, leur humanité et leur dignité. Et enfin, une comédie musicale tissée de mélodies faciles allait porter partout dans le monde la gloire de ce monument qui concentre en lui les grandeurs d'un passé mythique, mais aussi les très humaines épreuves d'un peuple dévot ou révolté. Les Français, attachés à l'histoire et au patrimoine, ont le cœur en peine. Mais tel le phénix, l'oiseau légendaire, Notre-Dame renaîtra sans doute de ses flammes, édifice sacré de la symbolique résurrection et de noblesse. Restitution du grand débat national tout d'abord en compagnie de Bernard Perru, député du Rhône, qui analyse les résultats de sa circonscription, la 9e circonscription. C'est tout de suite.
En tant que député, j'ai pu obtenir communication du nombre de contributions qui ont été déposées sur le site internet qui a été prévu à cet effet. Donc 705 habitants de ma circonscription ont fait donc remonter leur avis, ce qui place d'ailleurs cette circonscription dans les circonscriptions qui ont bien participé, 151e circonscription sur 577, c'est-à-dire que les habitants se sont intéressés. Et sur 100 contributions anonymes fournies par l'Assemblée nationale et que j'ai pu analyser, et puis également à travers les comptes rendus des réunions d'initiatives locales qui ont eu lieu sur ce territoire, j'ai pu effectivement dégager un certain nombre de tendances. Et la première tendance, la tendance prioritaire, celle qui revient partout, c'est nos concitoyens veulent plus d'écoute, plus de proximité, plus participer en quelque sorte à la décision et être des citoyens à part entière, ce qui ne me surprend pas. Parce que, bien évidemment, j'ai toujours privilégié pour ma part la proximité, le dialogue, l'écoute, et je conçois que ce soit une volonté de nos concitoyens. Et puis, bien évidemment, d'autres tendances se dégagent. Oui, on peut bien évidemment les développer, mais elles sont très, très nombreuses, puisque à la fois, on retrouve cette volonté de la reconnaissance du vote blanc, du recours plus fréquent au référendum. On évoque aussi beaucoup la plus grande justice fiscale, la baisse des impôts, et notamment avec la diminution de la TVA sur les produits de première nécessité, et puis encore toutes les questions qui touchent au coût du fonctionnement de l'État, de la dette publique, de l'encadrement des aides sociales. Et puis cette volonté aussi, sans doute, à travers nos territoires ruraux, du maintien des services publics de proximité, de simplification des démarches administratives, d'accès aux soins. Donc, véritablement, tous ces mots illustrent ce que l'on peut entendre. Hein. Et j'avoue que je n'ai pas attendu, d'ailleurs, ces résultats pour savoir ce que souhaitent, finalement, les habitants de notre territoire. Ils ont bien sûr évoqué aussi la maîtrise de l'immigration, le rôle de l'école, sur lequel ils veulent vraiment un rôle éducatif, voire même parfois de sévérité vis-à-vis des élèves. Et puis, bien sûr, toute la partie, j'allais dire, environnementale, transition écologique, changement climatique, est une préoccupation. Et puis enfin, je pourrais évoquer aussi cette volonté de l'abandon de la réduction à 80 km/h qui semble toujours susciter, j'allais dire, les passions. Voilà tout ce qui peut être dit, toutes ces annonces qui reprennent un peu, j'allais dire, tous les mots du dictionnaire, les mots MOTS, mais qui illustrent aussi tous ces mots MAUX de la société. Et je ne sais pas quelle réponse sera apportée, tant la diversité des revendications est forte. Oui,
les 80 km/h, c'est bien évidemment parce que nous sommes plus particulièrement dans une zone rurale et c'est peut-être la population qui est la plus touchée.
Oh, je crois que les 80 km/h, c'est une réaction normale de chacun parce qu'on pense que c'est une réduction uniforme. Alors que j'ai toujours défendu, moi, l'idée qu'il fallait laisser au préfet et au président de département, sur chacun des territoires, la possibilité de mettre en œuvre cette mesure ou pas, en fonction des risques, et non pas de dire on prend une mesure, on l'applique. Je crois que ça a été brutal, qu'il fallait faire autrement, et que c'est la raison pour laquelle les Françaises et les Français ont réagi, parce que vous, comme moi, vous partagez certainement le sentiment qu'il faut sauver des vies, qu'il faut mettre de la prudence sur nos routes. Par conséquent, on ne peut pas prendre des mesures, mais l'uniformité n'est pas une très bonne chose.
Finalement, j'en terminerai là, mais finalement, lorsque l'on écoute un petit peu tout ce qui est ressorti de ce grand débat, vous l'avez dit vous-même, il y a de nombreuses années qu'on entend un petit peu les mêmes choses, hein, que ce soit sur le transport, sur l'aide sociale, voilà, etc.
Je crois que la situation n'est pas nouvelle. Le grand débat qui a quand même nécessité beaucoup de réunions, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers, voire même le déplacement du président de la République dans de nombreuses réunions, tout ceci reflète ce que l'on entend dire, et comme je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, pas besoin de cueillir de doléances pour ma part, puisqu'en recevant chaque semaine des hommes et des femmes du monde rural, du monde urbain, en difficulté ou pas, eh bien je mesure quelles sont les attentes, et je crois qu'il y a une préoccupation très forte, c'est cette volonté de justice sociale. On peut bien vivre et exister sur un territoire, dans un pays, que si on se sent considéré, que si on se sent soumis à des règles qui sont justes les uns pour les autres. Et je crois que c'est un sentiment un peu d'injustice aujourd'hui, je veux dire, qui reflète le mal. Et puis, ce sentiment que peuvent avoir les hommes et les femmes qui travaillent, je pense à toutes ces classes moyennes, de dire à la fois on n'est pas aidé, à la fois il faut payer des impôts, on n'est pas assez considéré. Donc il y a un mal-être, et ce mal-être, il faut trouver des solutions. J'espère que le président de la République trouvera des réponses. Je ne sais pas lesquelles, parce que toutes les réponses ont besoin de financement. Et quel financement pouvons-nous avoir ? Telle est la question.
C'était Bernard Perrut, député de la 9e circonscription. Il revenait pour nous sur la restitution du grand débat national concernant les résultats de sa circonscription du Rhône. Élections européennes du 26 mai prochain, un point, avec le conférencier historien François Boursier. Il intervient dans le cadre du Fait du Mois à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche.
Pour résumer peut-être aussi, on peut le rappeler, la mission de ces parlementaires au sein de l'Union européenne, elles sont trois en fait.
Trois fondamentaux. Les pouvoirs sont importants. Du point de vue de la philosophie et je dirais de la science politique, c'est ce qu'il faut bien constater. C'est étonnant d'ailleurs que les citoyennes et les citoyens ne s'en rendent pas compte, mais il n'y a jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 40 ans, le Parlement n'a pas cessé de gagner des pouvoirs. Pouvoir législatif, c'est lui qui fait la loi. Alors, avec le Conseil des ministres, il co-signe ou co-dirige, mais aucun texte ne peut entrer en vigueur dans l'Union européenne s'il n'a pas obtenu la majorité au Parlement européen. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. C'est-à-dire que le budget de... Alors, le Parlement, à la différence du Parlement français, le Parlement européen ne vote pas les ressources, parce que les ressources, c'est les chefs d'État et du gouvernement qui en fixent l'enveloppe. Par contre, c'est lui qui vote les dépenses. Et aucune dépense ne peut être engagée dans l'Union européenne sans que le Parlement européen ait donné son aval, ait donné son pouvoir. Donc pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle, qui est aussi très important. C'est-à-dire que, là encore, le président de la Commission doit obtenir une majorité au Parlement européen pour exercer son mandat. Les commissaires européens ne peuvent devenir officiellement commissaires qu'après avoir planché devant le Parlement européen pour expliquer leur politique. Le Parlement les soumet à une rafale de questions et après ils votent. Et si ça avait été le cas pour une commissaire ukrainienne qui devait être commissaire chargée de l'industrie, qui était ancienne directrice d'un des plus gros groupes industriels de Lituanie, elle avait omis de le mettre dans son CV. Les parlementaires européens lui ont dit « Madame, vous êtes en conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être commissaire chargé de l'industrie en ayant été à la tête du plus grand groupe industriel de Lituanie. Donc, vous n'aurez pas la possibilité d'être commissaire. On vous remercie. » Elle a été obligée de partir. Et la Lituanie et l'Italie avaient été dans le même cas contrainte de choisir un autre commissaire. Donc il y a un pouvoir de contrôle qui est extrêmement important. Puis le dernier pouvoir qui est plus modeste mais qui n'est pas inintéressant, c'est le pouvoir de pétition, c'est-à-dire que le Parlement européen recueille les pétitions des citoyennes et des citoyens. Et ces pétitions, elles sont recevables ou elles ne le sont pas, en fonction des critères de compétence ou pas de l'Union européenne. Et ensuite, ces pétitions, elles remontent au niveau du Conseil européen et au niveau de la Commission.
Les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. Et pour conclure cette édition, le 2 avril dernier était la journée mondiale de l'autisme. Nous avions recueilli alors le témoignage d'une maman, Madeleine Favreau, mère d'un jeune adulte de 22 ans, Paul, autiste. Avec elle, le parcours éducatif de Paul, mais aussi les soutiens parentaux possibles. Elle est jointe par téléphone.
Peut-être la première chose que je peux vous dire, c'est que nous tombons dans un handicap dans lequel il n'y a pas d'expert. Donc le diagnostic est posé, il est posé même assez tôt. D'abord, il faut faire un diagnostic différentiel avec la surdité. Donc Paul n'est pas sourd, il y a bien autre chose. Et entre psychose ou autisme, le pédiatre de l'époque, première difficulté, ça a été à 6 mois de sevrer de l'allaitement maternel et à prendre un biberon, donc des difficultés alimentaires. Et d'autres difficultés qui étaient plus motrices, quelque chose qui m'a fait consulter, ça a été une chute. Un enfant qui apprend à marcher, il sait se protéger avec ses mains. Et là, il ne s'est pas protégé, donc il est tombé de face contre terre.
Donc, un des premiers éléments qui a été en fait révélateur, qui vous a en quelque sorte un peu inquiété, c'est ça? Donc, les premiers médecins, bien évidemment, j'imagine.
D'abord un généraliste, et puis on consulte sur l'hôpital de Villefranche. Et à l'hôpital de Villefranche, donc, ça a été un peu trouble autistique et psychose, quoi. Et il faut que j'aille jusqu'à l'hôpital neurologique de Lyon pour que le mot autisme... La marche est haute entre trouble autistique et autisme réellement, quoi.
Car c'est compliqué peut-être aussi à avoir un diagnostic peut-être sur des enfants en bas âge.
Et au contraire, il faut poser le diagnostic assez tôt. Hein. En principe, il serait bien de le poser avant 3 ans. Mais on sait maintenant qu'il y a quand même des enfants pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils ont un bon niveau, quoi. Enfin, ils se développent partiellement, quoi. Il avait 2 ans quand on a rejoint Autisme France qui faisait des formations. Donc voilà, on s'est formé, ce qui permet de ne pas culpabiliser. Voilà, on a rejoint aussi une association caladoise qui était à ce moment-là ATA. Et puis ensuite, on a rejoint Lyon et l'association s'appelle aujourd'hui Autisme Rhône Lyon Métropole. Voilà, donc parler entre parents, et c'était un petit peu ça le jour du diagnostic. Hein, le médecin nous avait dit... d'aller dans des associations.
C'était le témoignage de Madeleine Favreau, mère d'un jeune adulte de 22 ans, Paul, autiste, dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme, le 2 avril dernier. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.